Laudetur Jesus Christus.
Au terme de son premier jour mouvementé à Jérusalem, l'équilibre diplomatique pour Emmanuel Macron. Après les autorités israéliennes, le président français a rencontré tard hier soir le président palestinien à Ramallah. Une visite discrète mais symbolique. La mystérieuse souche de coronavirus continue de se propager autour de la ville chinoise de Wuhan. L'Organisation mondiale de la santé prolonge sa réunion d'urgence. 17 morts en Chine, un cas à Taïwan. Nous irons sur place dans quelques instants. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, cible d'une attaque ayant fait 19 morts hier, une zone qui sème la zizanie entre les deux États où s'opposent communautés locales et éleveurs nomades. Et puis Afrique toujours, l'on s'arrête au Cameroun, en proie à une crise humanitaire et politique dans plusieurs de ses régions. Au nord, Boko Haram, au sud, les séparatistes anglophones. Vous entendrez le témoignage d'un missionnaire sur place.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. 40 chefs d'État à Jérusalem prennent part ce jeudi au Forum mondial en mémoire des victimes de l'Holocauste. Le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge marqué par une série de commémorations en Israël. Vladimir Poutine, Mike Pence, le prince Charles, Emmanuel Macron sont entre autres au rendez-vous. Le président français arrivé dès hier à Jérusalem a entamé un marathon diplomatique. Une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin, une visite des lieux saints de la ville, une entrevue avec Benjamin Netanyahou, puis en fin de journée, une visite tardive au siège de l'autorité palestinienne où il a rencontré Mahmoud Abbas. Le récit à Jérusalem de Valérie Ferron.
Si cette première visite du président Macron à Ramallah a été brève, elle est venue marquer la volonté française de conserver un équilibre diplomatique à l'heure où la solution des deux États est largement malmenée, tout d'abord sur le terrain par la poursuite de la colonisation israélienne, mais également par la multiplication actuellement des promesses de la part des responsables politiques d'annexer à terme la vallée du Jourdain, zone de la Cisjordanie occupée, essentielle pour la viabilité d'un État palestinien. Le président Abbas ne cesse de dénoncer ces projets israéliens soutenus par Washington et veut les contrer, notamment en appelant les pays européens, dont la France, à reconnaître l'État de Palestine. Avant Ramallah, Emmanuel Macron s'est rendu dans la vieille ville de Jérusalem où il a visité l'esplanade des mosquées, le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre ainsi que l'église Sainte-Anne. Territoire français, a-t-il rappelé aux policiers israéliens présents en nombre et dont il a fustigé le comportement. Une altercation fortement appréciée par les Palestiniens, même si la grande majorité d'entre eux avouent n'attendre rien de la France sur le plan diplomatique. Jérusalem, Valérie Ferron pour Radio Vatican.
Et durant la journée, depuis le sanctuaire du Saint-Sépulcre, le président français a annoncé la création d'un fonds pour financer les écoles des chrétiens d'Orient. L'idée de ce fonds de soutien avait été avancée dans un rapport remis il y a un an à l'Élysée par Charles Personnaz, haut fonctionnaire et bénévole de l'œuvre d'Orient. Et ce jeudi, dans la ville, trois fois sainte, le ton doit être à la mémoire de la Shoah, avec des commémorations organisées au mémorial de Yad Vashem, où sera aussi présent le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Et les dirigeants des alliés d'autrefois, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et de l'Allemagne, doivent y prononcer les principaux discours. La Pologne est la grande absente sur fond de controverses mémorielles avec Vladimir Poutine, le président polonais ayant préféré s'abstenir de venir, n'ayant pas été invité à prononcer de discours. Au Liban, la colère ne faiblit pas malgré les promesses du nouveau Premier ministre. Au lendemain de la formation de son gouvernement qui a attisé la colère de la rue, des heurts ont éclaté près du siège du Parlement à Beyrouth, blessant une vingtaine de personnes. De l'autre côté de l'Atlantique, Washington appelle le nouveau gouvernement libanais à mener des réformes tangibles. La mystérieuse souche de coronavirus continue de se propager autour de la ville chinoise de Wuhan. Au moins 17 personnes sont décédées dans l'Empire du Milieu après avoir contracté des symptômes proches de ceux de la pneumonie. Au moins 5 autres pays sont touchés. Un premier cas a aussi été annoncé à Taïwan, un archipel revendiqué par la Chine. Problème, Taïwan est exclu de l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions de notre correspondant sur place, Adrien Simor.
Dans les rues de la capitale, Taipei, le nombre de visages masqués est en légère augmentation. Mardi, les autorités taïwanaises ont annoncé la découverte du premier cas d'infection au mystérieux virus d'origine chinoise. Une citoyenne taïwanaise qui rentrait tout juste de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Pas encore de panique à Taïwan, mais l'inquiétude monte à la veille des vacances du Nouvel An chinois et le retour de milliers de Taïwanais installés en Chine. Une inquiétude d'autant plus grande que Taïwan n'a pas été convié au sommet de crise organisé hier par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2017, l'archipel est en effet exclu de l'OMS en raison des pressions diplomatiques exercées par Pékin. De quoi provoquer la colère de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen hier lors d'une conférence de presse.
Taïwan compte 23 millions d'habitants qui sont des êtres humains comme les autres et font face aux mêmes risques sanitaires. Je demande à nouveau à l'Organisation mondiale de la santé de ne pas exclure Taïwan pour des motifs politiques. Ces raisons politiques ne devraient jamais primer sur la santé des personnes.
À Taïwan, les souvenirs de l'épidémie meurtrière du SRAS de 2003 sont encore vifs. À l'époque, plusieurs experts taïwanais s'étaient vus refuser des informations pourtant précieuses de la part de l'OMS. Cela n'avait pas empêché le gouvernement taïwanais de gérer cette crise avec une certaine efficacité. Des dizaines de décès avaient été comptabilisés à Taïwan contre des centaines côté chinois. Taipei, Adrien Simor pour Radio Vatican.
Une réunion régionale sur la Libye aujourd'hui à Alger. L'aéroport de Tripoli qui est de nouveau fermé après les menaces hier soir des forces du maréchal Haftar. Tout survol de la capitale par un avion militaire ou civil sera considéré comme une violation du cessez-le-feu, a prévenu son porte-parole dans la nuit. Ce cessez-le-feu en place depuis le 12 janvier à l'initiative de la Russie, alliée du maréchal, et de la Turquie, soutien du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. 19 morts, 25 blessés hier au Soudan dans la région d'Abyé. Le bilan a été communiqué par la force des Nations Unies déployée sur place. Cette zone située à la frontière avec le Soudan du Sud constitue une véritable pomme de discorde entre les deux États. Sur le terrain, les tensions opposent les communautés locales et des éleveurs nomades, provoquant parfois des affrontements meurtriers. Adélaïde Patrignani.
C'est la communauté sud-soudanaise Dinka qui a été visée lors de cette attaque du village de Kolom. L'administrateur en chef de la région a précisé que l'attaque était due à des éleveurs Miseria lourdement armés et à des assaillants. Les Miseria sont des éleveurs soudanais qui traversent la région pour nourrir leur bétail. Une région convoitée car riche en pétrole et théâtre de conflits depuis de nombreuses années. D'abord pendant les deux guerres civiles soudanaises, puis après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, pendant laquelle les combats ont fait fuir 100 000 personnes. Depuis cette date, l'ONU a mis en place une force de maintien de la paix composée de 4500 soldats éthiopiens. Mais les tensions restent vives. En 2018, le Conseil de sécurité de l'ONU estimait que la situation dans l'Abyé continuait de constituer une menace grave à la paix internationale. La paix, la prospérité et un engagement renouvelé sur le chemin de la fraternisation, c'est ce qu'avait souhaité le pape François aux dirigeants politiques du Soudan du Sud lors de ses vœux de Noël. Le Saint-Père se montre particulièrement attentif au processus de paix dans la région. En adressant ses vœux au corps diplomatique le 9 janvier dernier, il a aussi réaffirmé sa volonté de se rendre cette année au Soudan du Sud.
Adélaïde Patrignani. Plus de 20 000 arrestations de migrants au Mexique, bilan dressé hier par les autorités. Depuis quelques jours maintenant, les heurts s'accumulent entre les caravanes de migrants qui cheminent vers les États-Unis et les forces de sécurité mexicaines. Pour juguler ces flux, Mexico n'a déployé rien de moins que quelques 26 000 militaires aux frontières sud et nord de son pays. En Italie, le chef du mouvement 5 étoiles jette l'éponge. Luigi Di Maio, toujours ministre des Affaires étrangères, a annoncé sa démission hier soir. C'est un petit séisme dans la politique italienne à l'approche d'un important scrutin et qui révèle les fragilités du mouvement anti-système au pouvoir. À Rome, Blandine Hugonnet.
C'est la fin d'une ère politique. J'ai accompli mon devoir. Je suis fatigué. Ce sont les mots de Luigi Di Maio hier soir devant ses partisans réunis à Rome. Après 2 ans et demi à sa tête, le chef de file du mouvement 5 étoiles a créé la surprise en renonçant à sa fonction. Lui qui a mené le mouvement anti-système à un triomphe aux législatives de 2018, sa démission inattendue sonne comme un aveu d'échec. La force politique qui se partageait alors le pouvoir avec l'extrême droite a perdu la moitié de son électorat dans les intentions de vote. Et peu à peu, le leader de 33 ans, a aussi vu s'effriter sa majorité au Parlement. En moins de 2 ans, une trentaine d'élus ont claqué la porte ou ont été poussés vers la sortie. C'est le moment d'une refonte des 5 étoiles, a reconnu hier Luigi Di Maio. Actuel ministre des Affaires étrangères, il devrait conserver son poste. Mais son départ risque d'affaiblir sa fragile coalition avec les démocrates. Ce gouvernement est fini, a commenté Matteo Salvini, un patron de la Ligue d'extrême droite à la mine réjoui, qui a promis de faire tomber l'exécutif en gagnant, dimanche prochain, des élections locales dans un bastion historique de la gauche. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Prenons maintenant la direction du Cameroun, un pays en proie à une crise humanitaire et politique dans plusieurs régions. Une situation due notamment aux exactions commises par les islamistes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays, tandis qu'au nord-ouest et au sud-ouest sévissent des groupes séparatistes anglophones. Ces tensions ont provoqué des déplacements massifs de population, mais aussi beaucoup de violences, incendies de villages, attaques d'hôpitaux, meurtres et enlèvements. De nombreuses écoles ont aussi dû fermer. 174 établissements scolaires ont été ainsi pris pour cible entre 2016 et 2019. Et sur le plan religieux, le Cameroun est un pays à majorité chrétienne. Environ 65% des 25 millions d'habitants sont chrétiens, 38% catholiques. Même si elle doit faire face au défi des sectes, l'Église est-elle encore très vivante? C'est ce dont nous témoigne le prêtre espagnol Angel de la Victoria, des missionnaires xaviériens, une congrégation qui fête cette année les 125 ans de sa fondation. Il est venu pour la première fois au Cameroun en 1989 avant de servir une dizaine d'années au Tchad. Actuellement en mission à Yaoundé, le père Angèle témoigne de son quotidien et des défis que traverse le pays.
Nous avons beaucoup de jeunes bien préparés. Il faut dire que le Cameroun a investi sur l'éducation. Beaucoup suivent des cours au niveau de l'université, font des masters, font des licences. Mais la réalité, c'est que beaucoup de ces jeunes terminent et se trouvent dans une situation de chômage. Justement, avant Noël, il y a eu presque 2 semaines de manifestations de doctorants et qui attendent depuis des années à ce qu'ils soient embauchés. Et ils ont fait une grande manifestation, une grève de faim devant le ministère pour réclamer aussi et pour demander qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui se sont préparées pendant des années, mais qui voient que leur avenir n'est pas très clair.
Le 1er janvier dernier marquait pour le Cameroun les 60 ans de son indépendance, une indépendance douloureuse qui n'a d'ailleurs pas été commémorée dans le pays. Quelles sont les conséquences de cette histoire aujourd'hui?
Moi, je pense que c'est toujours bon de commémorer l'histoire. Et les Camerounais, ils sont conscients de leur histoire, qui est une histoire aussi un peu de souffrance, parce qu'actuellement, dans notre pays, il y a deux régions anglophones et il y a les autres qui sont francophones. Ce sont des peuples qui ont leur culture, leur langue, mais qu'à cause de la colonisation, actuellement, le pays est un peu tiraillé. Cette année-ci, il y a eu une grande conférence qui a été organisée par le président au début à la fin du mois de septembre, mais on ne voit pas trop les conséquences de cette conférence. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de violence depuis 3 ans, il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Alors voilà, c'est savoir d'où nous venons, pour voir où nous allons. Peut-être ça nous aiderait à dépasser aussi certaines divisions qui en réalité ne sont pas des divisions très anciennes, mais sont des divisions qui ont été créées à cause d'une colonie qui n'est pas à nous, mais qui a été imposée du dehors.
Est-ce que vous menez votre mission dans un climat de paix ou en prenant des précautions particulières pour la sécurité?
Nous sommes dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé. Il y a un peu de violence, c'est vrai, dans les quartiers. Il ne faut pas rentrer tard la nuit parce qu'on peut être agressé. Mais je ne me sens pas dans l'insécurité. Je dois sortir parfois la nuit pour faire des veillées, surtout lors des enterrements, des funérailles. Je ne me suis jamais senti dans la sécurité. Il est vrai que les gens nous connaissent, bon, ils nous respectent. Mais dans les pays, il y a quand même de l'insécurité. Il y a une situation de corruption très généralisé. Il y a une justice aussi qui est parfois arbitraire. Je dois dire qu'il y a peut-être un fléau qui est là en train d'augmenter, c'est le fléau de la consommation de la boisson. Combien de familles déstructurées à cause de cette boisson, combien d'argent dépensé, combien de grossesses non désirées. Alors vous voyez que la situation, c'est vrai que n'est pas très belle. Malgré cela, l'envie, la force pour lutter, l'espérance ne manquent pas.
Quels sont vos espoirs pour cette nouvelle année qui commence?
Pour moi, l'espoir, c'est qu'il y ait un peu plus de justice, qu'il y ait un peu plus de stabilité, que les chrétiens ils puissent se faire entendre et sentir leur présence dans tous les domaines de la société. Car vraiment, on voit une grande dichotomie entre nos églises pleines à craquer à chaque fois et la présence active des chrétiens dans toutes les dimensions de leur vie, dans leur travail, dans leur bureau, dans la société. On se demande où sont ces chrétiens qui remplissent les églises. Alors je pense qu'on attend que la présence chrétienne dans tous les domaines de la société soit plus présente, plus agissante, qu'on voit que la foi interpelle la vie.
Interrogé par Adélaïde Patrignani, le père de la Victoria, missionnaire au Cameroun, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour un nouveau panorama du monde, de l'Église et du Vatican. Excellente journée.